Allez mamie, je t'emmène au FIC.
À bord du TGV Inouï 7015 à destination de l'île Flandre. Le départ de notre TGV Inouï est prévu à 8h44. Je vous rappelle que vos bagages doivent être étiquetés afin que ceux-ci ne soient pas considérés comme des colis abandonnés. Merci de votre attention.
Alors pour beaucoup, le FIC commence toujours dans le train. Et pour le moment, c'est une ambiance sonore assez feutrée. Vous allez comprendre assez rapidement que le FIC, malheureusement, est un endroit assez bruyant. Ce qui explique pourquoi les prises de son étaient parfois compliquées. Ce qui peut donner des interviews avec pas mal de bruit de fond, et je m'en excuse. Alors, dans un premier temps, dans cet épisode, on va écouter un certain nombre de responsables qui vont donner leur vision sur l'intelligence artificielle et... un petit peu l'état actuel de la cybersécurité en France. Et par la suite, on va entendre d'autres intervenants qui, eux, sont plus du côté métier, du côté vraiment terrain, et eux aussi vont donner leur point de vue par rapport à l'IA et au contexte géopolitique de la cybersécurité en ce moment. Pascal Steicher, Chairman Advisory Board du Forum InCyber.
Bonjour à tous les deux, merci donc de nous rejoindre sur la scène de InCyber. D'abord, Pascal, je me tourne vers vous. L'intelligence artificielle, est-ce que c'est plutôt une évolution pour la cyber ou vraiment une révolution? Et à quoi est-ce qu'on peut s'attendre concrètement? Qu'est-ce que ça va changer?
Oui, ça dépend un peu des points de vue. Je pense que l'intelligence artificielle pour le cyber, il y a en gros trois dimensions. En anglais, on dirait the good, the bad and the ugly. Hein, donc le beau, le moins beau et puis le mauvais. Hein.
Marie-Laure Denis, présidente de la CNIL.
Alors pour conclure, mais c'est la deuxième fois que je dis que je conclue, mais là c'est vraiment très très brièvement, c'est pas sur l'IA, mais je voudrais quand même vous dire un mot, quelques phrases sur les enjeux de cybersécurité, tant parce qu'il s'agit de l'ADN du forum InCyber, qu'en raison des récentes violations massives de données constatées. Ces violations sont pour la France sans précédent, en raison des volumes concernés et de la nature des données, bien souvent directement identifiantes, comportant des coordonnées, parfois ce qu'on appelle le NIR, c'est-à-dire le numéro de sécurité sociale. Et de cette séquence, en fait, je retiens principalement trois choses. La coordination entre les acteurs de la cybersécurité, notamment au sein de l'administration, est essentielle. Et je crois qu'elle a bien fonctionné avec Cybermalveillance, le parquet cyber J3 et l'ANSSI. Ensuite, le niveau de maturité des opérateurs en matière de sécurité informatique reste insuffisant. Enfin, il nous faut accentuer les actions de sensibilisation et d'éducation aux enjeux cyber à destination de l'ensemble de la population, en particulier pour aiguiser leur vigilance. Je crois même qu'est venu le temps de faire de la cybersécurité une grande cause nationale. Je vous remercie pour votre attention.
Agnès Diallo, directrice de l'agence européenne EU LISA.
Je voudrais finir par... en partageant avec vous quelques points de conviction fortes à mon endroit. La première, c'est qu'on ne peut pas ne pas y aller. À cause des opportunités, on les a évoquées. Aussi à cause du coût de ne pas le faire. Je vous laisse imaginer si on devait se laisser distancier par d'autres acteurs, d'autres régions, sur ce terrain-là, ce qu'il adviendrait de l'indépendance, l'autonomie, la souveraineté de l'Europe. Et pour moi, c'est presque comme le pari pascalien. Quel que soit l'angle par lequel on le prenne, il faut y aller. Mais maintenant qu'on a dit qu'il fallait saisir cette opportunité, il faut y aller, mais avec un plan. avec un plan qui nous permette, d'une part, d'être gagnants dans cette nouvelle donne, et d'autre part, d'être responsables et d'affirmer les valeurs qui nous permettent de porter ces opportunités, mais dans le plein respect de ce qui compte pour nous, la protection de la donnée, les usages qui sont corrects, privilégiant des aspects positifs de ces technologies. Alors, comment on fait ça ? D'abord, je crois en sensibilisant, en expliquant, en faisant toucher du doigt les véritables opportunités, mais aussi les risques qui sont associés à cette opportunité. Dans cette salle, certainement, si vous êtes là, c'est que vous avez une proximité, un intérêt, une familiarité peut-être avec ces sujets. Mais la réalité, c'est qu'au-delà de cette salle, 7 Français sur 10 sont inquiets et défiants de la technologie. Et donc, si on ne les emmène pas avec nous, si le débat ne dépasse pas les portes des cercles de ceux qui en sont proches, eh bien, on ne pourra pas avoir le consensus, l'adhésion, l'emport qui est nécessaire pour justement avoir l'ambition qu'il faut autour de ces sujets. Le deuxième axe, c'est de rebâtir les aspects de la souveraineté. Économique, bien sûr, mais en termes d'innovation, renforcer la formation des chercheurs, nourrir les pousses qui vont nous permettre d'avoir des champions européens, qui vont faire que demain, IULISA, mais peut-être l'organisation dont vous faites partie, n'aura pas comme seul recours de se tourner, bonjour Thierry, de se tourner vers des acteurs américains. Et puis, le commissaire Breton me salue, je le salue en retour pour une raison liée à son excellente contribution pendant son mandat, c'est qu'à travers un train de réformes extraordinaire, un train de règlements tout à fait significatifs dans les domaines qui sont les autres aujourd'hui, l'Europe s'est affirmée dans la possibilité de protéger ses valeurs. On a tous entendu parler du social scoring chinois, le système de crédit social dont, paradoxalement, un des objectifs est de reconstruire la confiance. Et on voit bien comment, rien qu'en en parlant, on frémit, on s'inquiète. Eh bien, une des manières de protéger nos atouts, de protéger nos acquis démocratiques, c'est précisément de les encadrer à travers un certain nombre de cadres qui nous permettent de tirer le plein bénéfice de ces nouvelles opportunités, tout en y appliquant la prudence, la rigueur qui nous permettront d'affirmer notre positionnement unique dans le monde. Je vous remercie beaucoup.
Nicolas Ruff, No Limites Sécu. Nicolas, donc FIC 2024 sous le signe de l'IA. Donc les auditeurs les plus assidus qui ont déjà écouté l'épisode qu'on a enregistré ensemble sur l'IA connaissent déjà un petit peu ton point de vue là-dessus. Cependant, on peut quand même se poser un certain nombre de questions, puisque même si l'IA peut-être ne sert pas forcément au niveau défense, peut-être que ça sert au niveau attaque. Voilà, j'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus, ce que tu en penses, toi personnellement. Tu es une personne assez bien placée pour voir ce genre de choses, donc j'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus.
Mais c'est une fausse question, et tu le sais. Tu as un point de vue là-dessus et tu voudrais que je corrobore le tien, mais je pense que c'est vraiment une fausse question. Aujourd'hui, si tu fais n'importe quoi en ligne, enfin, je sais pas, tu fais de la traduction de documents, tu fais de l'OCR, tu as de l'IA derrière dans la plupart des cas. Donc, c'est déjà utilisé par tout le monde pour la correction orthographique, des choses comme ça. C'est pas forcément visible, c'est pas forcément labellisé IA, mais voilà. Après, si ta question est plus sur est-ce que les attaquants ou les défenseurs vont être ceux qui bénéficient le plus des avancées de l'IA, c'est un problème ouvert aujourd'hui.
D'accord. Parce qu'en réalité, je fais référence à l'épisode que vous avez fait dans No Limites Sécu, sur lequel vous avez décortiqué un petit peu l'attaque Ison. Je ne sais pas si je le prononce bien. dans lequel un petit peu la conclusion c'était de voir que ce groupe d'attaquants n'était pas forcément très bon techniquement, par contre ils savaient bien organiser leurs données, et la question qui demeurait, la question qui était un petit peu en suspens dans la discussion, était qu'est-ce que ça donnerait si ils avaient plus d'IA et une capacité peut-être plus affûtée pour organiser les données et donc du coup avoir des attaques un peu plus percutantes.
Bien, tu as interviewé la mauvaise personne, parce que je ne sais pas. Aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas si c'est moins cher d'utiliser des fermes d'humains pour résoudre des CAPTCHA ou de passer par une IA. Je ne sais pas combien ça coûte, je ne sais pas quel est le taux de succès. Donc, si tu as besoin de faire relire des millions de pages de documents, il existe un monde où, en fait, c'est moins cher de passer par des humains que d'utiliser des TPU dans des data centers, parce que l'IA, c'est quand même assez gourmand en énergie. Voilà. Je suppose... Et ça, c'est sans parler du temps d'entraînement, hein, parce qu'il faut que tu aies des gens, des data scientists derrière qui fassent le tri dans les documents, donc qui sélectionnent un sous-ensemble, qui expliquent à l'IA comment synthétiser un document, qui ensuite ont un jeu de validation pour vérifier que l'IA a été bien entraînée, et qu'ensuite ils repassent l'IA sur le corpus total. Donc forcément, ça a des coûts, ça a du délai, et il n'y a rien qu'une bonne armée de 100 stagiaires ne puisse pas résoudre.
Ouais, je crois que ça conclut un petit peu la question sur le coût de l'IA et finalement la balance avec ce qu'on pourrait faire d'un point de vue plutôt matériel. Bon, maintenant, on a beau dire, l'IA, ça rentre quand même en ligne de compte maintenant dans la cybersécurité, tout le monde en parle. Alors, selon toi, je connais déjà un petit peu la réponse, mais j'aimerais bien quand même que tu me donnes un petit peu plus ton avis. Simple effet de mode ou alors quelque chose de plus fondamental sur lequel on va retrouver de l'IA sur le très long terme et demain, on aura peut-être beaucoup plus d'assistance artificielle dans tout un ensemble de détections et peut-être aussi de réponses.
C'est une opinion personnelle, mais je pense qu'on est au début de la courbe de hype. Tout le monde veut absolument mettre de l'IA partout sans forcément se poser la question de est-ce qu'il n'y aurait pas une meilleure solution, hein. Mais c'est comme un moment, il fallait mettre du NoSQL partout parce que le SQL c'était outdated, et aujourd'hui on vit dans un monde hybride où il y a à la fois du SQL, du NoSQL, du GraphQL, toutes les techniques du stockage, enfin, de l'ETCD, du stockage clé valeur et autres, et voilà, chaque problème a trouvé sa solution. Aujourd'hui on est dans la phase où il faut mettre de l'IA partout. Je pense qu'après, il y a un certain nombre d'expérimentations qui vont échouer. On pense à une compagnie canadienne qui a eu quelques déboires avec son bot. Et les usages réellement utiles et fonctionnels et industriels vont rester. Et on va revenir sur des choses un peu plus rationnelles. Il y a des choses sur lesquelles ça marche très bien aujourd'hui qui, à mon avis, disparaîtront pas. C'est tout ce qui est génération de clipart, par exemple, ou d'images un peu rigolotes. Ou le détourage d'image, c'est vrai que le faire à la main dans Photoshop c'est un peu chiant, une IA te le faire en deux secondes, ça disparaîtra pas. L'appli, alors je sais pas si on peut citer des noms, mais il y a une appli où tu prends en photo ton frigidaire et il t'apprend à cuisiner avec les restes sur la base de l'IA. Bon, je sais pas si dans 5 ans elle existera encore, hein. Il y a comme des usages un peu plus niche de l'IA, quoi.
Donc comme on dit en finance, il y aura une consolidation du marché.
Probablement. Le marché décidera. Les gens continueront à utiliser certains services et il y en a d'autres qui disparaîtront d'eux-mêmes. Après, l'IA ne disparaîtra pas complètement, sauf si l'électricité disparaît, ce qu'on ne peut pas exclure à moyen terme. Mais en attendant, effectivement, l'IA disparaîtra pas. Ça va se ranger sur une étagère avec tous les autres outils dont on dispose déjà, quoi.
D'accord. Et là, maintenant, au-delà de la question de l'IA, puisque donc, je le rappelle, le FIC de cette année est un petit peu placé dans cette optique, toi, est-ce que pour 2024, tu vois des tendances particulières en matière de cybersécurité ? Tu penses que c'est toujours un échec ou que les choses s'améliorent un petit peu ?
De toute manière générale, tu connais mon opinion sur la cybersécurité. D'ailleurs, je ne peux pas en changer, puisque comme j'ai déposé la marque, on m'accuserait de ne pas défendre la marque si je disais le contraire.
C'est vrai.
Mais je pense qu'il y a beaucoup de hype autour de l'IA et cybersécurité. Hein, on est tous les deux d'accord là-dessus. L'IA a quand même quelques problèmes pour lesquels je ne pense pas qu'il y ait de solution actuellement, comme les histoires de prompt injection ou même de, on va dire... Comment dire ça de manière politiquement correcte, on va dire la validation des résultats selon une certaine vision du monde. Enfin, s'assurer que l'IA ne dise pas le contraire de ton discours corporate officiel, c'est des problèmes ouverts. Je pense qu'il y a des gens qui travaillent dessus, mais je suis pas sûr qu'on ait des solutions 100% fiable même à 10 ans, quoi.
Je crois qu'il y a un intervenant de No Limit Sécu aussi qui avait expliqué que l'un des problèmes existants dans l'IA aujourd'hui, c'est de pouvoir corriger
une IA dysfonctionnelle sans devoir repasser tout le cycle d'apprentissage, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même loin d'être facile à réaliser aujourd'hui, si j'ai bien compris.
Il faudrait demander à un mathématicien. Je sais juste que, je crois que c'est ChatGPT 3.5 ou 4, ils avaient annoncé que l'entraînement du modèle avait coûté 500 millions de dollars et que la version suivante serait probablement 10 fois plus chère. Bon, ça, c'est des chiffres publics hein, que tu peux retrouver sur Internet. Et effectivement, t'as pas envie de réentraîner ton modèle tous les 4 matins. Maintenant, je crois qu'il y a quand même des techniques qui permettent, on va dire, de patcher en amont et en aval pour essayer de... Enfin, toutes les techniques de surentraînement et des choses comme ça pour essayer de limiter un peu la casse. Évidemment, dans la cybersécurité, le monde change. Je veux dire, les cross-site scripting ou les attaques aujourd'hui, ils n'ont rien à voir avec celles d'il y a 5 ans, hein, sur l'exploitation de réseaux internes ou sur les attaques web, toutes les stacks ont changé. Donc c'est un peu comme les signatures d'antivirus ou d'IDS. Si tu travailles encore avec des signatures d'il y a 10 ans, bah, tu vas détecter Icar et des XSS dans PHP 3, mais tu ne vas pas détecter les attaques modernes sur Angular ou sur React. Voilà.
D'accord. Enfin, cela dit, quand il y a un bug dans un programme qui est écrit avec des lignes de code, on arrive à lire le code, à comprendre pourquoi il y a le bug, et le corriger. Une IA, c'est quand même des milliards de paramètres, et savoir lequel il faut changer pour corriger le problème est quand même nettement plus complexe, j'ai l'impression, du moins en termes purement de maintenance de l'IA, quoi.
Alors, tu serais assez surpris par le fait qu'on n'arrive pas à corriger tous les bugs logiciels. Hein. Des fois, il y a des problèmes structurels.
J'ai cru comprendre.
Ça nécessiterait de réécrire intégralement les applications. Enfin, des fois, il y a des modèles, en particulier sur la synchronicité, par exemple, si tu as des histoires de callback et tout comme ça, il y a des moments où tu peux juste pas garantir que l'application va séquencer les opérations à un certain ordre, sauf à vraiment tout réarchitecturer. Donc, voilà, ça... Corriger des bugs, c'est déjà pas simple. Et après, ce que tu appelles des bugs dans l'IA, c'est aussi la partie intéressante de l'IA, c'est-à-dire c'est sa créativité. Si tu as un système expert, donc si tu as un arbre de décision, il va toujours prendre les mêmes décisions et tu peux facilement corriger ses décisions. Ça, c'est des trucs qui existaient il y a 40 ans où tu cliques oui-non dans un QCM et tu sais, c'est le truc où tu réponds à 20 questions et on te dit à quel objet tu penses. Ça, c'est un pur arbre de décision. Une IA, elle va. Il y a une partie. Chaos, enfin stochastique, si on peut jouer au Scrabble avec toi. C'est ce qui fait aussi l'intérêt de ces outils, c'est qu'ils ne sont pas complètement déterministes et que des fois, ils vont te sortir des choses auxquelles tu n'avais pas pensé.
Ouais. Tu veux dire que le vieux dicton « This is not a bug, it's a feature » prend tout son sens avec l'IA.
Tout à fait.
Peut-être un mot de la fin pour un message que tu veux donner aux auditeurs par rapport au FIC ou même pour cette année.
Peut-être une opinion pas très populaire, mais moi j'aime bien le FIC. Y a beaucoup de monde, on croise plein de gens qu'on voit une fois par an. Y a une bonne ambiance. Beaucoup de gens ne sont pas lillois, donc en fait ils prolongent la soirée. On fait plein de rencontres dans les bars de Lille. Et en plus, le fait que maintenant ça se passe plus dans la neige au mois de janvier fait qu'on peut plus facilement aller en terrasse. Donc moi j'aime bien cet événement, voilà. Je recommande à tout le monde d'y venir, on y distribue des stickers, le podcast.
Je crois qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui ont la même opinion que toi puisqu'on est très nombreux fixe cette année. Globalement, oui, effectivement, c'est une grande réussite et je confirme, on peut rencontrer des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on se voit en vrai, comme quoi tout arrive. Nicolas, je te remercie et je te souhaite un bon salon.
Merci, toi aussi, profite bien.
Baptiste David, Tenacy.
Bonjour Baptiste.
Bonjour Nicolas.
Alors FIC 2024, une année de plus. On sait que cette année, le FIC est un petit peu passé sous le signe de l'IA. Mais au-delà de l'IA, il y a d'autres sujets qui concernent tout le monde. Hein. Des réglementations assez importantes, DORA, NIS 2, hein, pour ne pas les rappeler. Donc toi, de ton côté, ben, c'est quelque chose qui vous appartient vraiment ton day-to-day, hein, puisque c'est quelque chose que tu gères quasiment au quotidien, dire ça comme ça, dans tes activités professionnelles. J'ai envie de te poser la question, donc FIC 2024, qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour toi? Qu'est-ce qui est important? Quelles sont les tendances? Le message global?
Alors, je pense que le message global, il va se jouer sur trois sous-parties. Effectivement, la partie IA, qui est la grosse thématique, c'est très prospective. Aujourd'hui, l'IA, tout le monde en parle et peu le font. Je citerai pas Nicolas Ruff qui a des idées sur ce genre de sujet. finalement, aujourd'hui, on ne sait pas encore exactement comment cela va impacter, on va dire, la cybersécurité. C'est tout l'intérêt du FIC de mettre en avant ces sujets, de faire interagir l'écosystème. C'est hyper intéressant. C'est vrai que par contre, aujourd'hui, je suis pas sûr que ce soit vraiment dans le quotidien des équipes cybersécurité de travailler sur l'IA. Ça va le devenir, fort est à parier. Maintenant, voilà, il y a d'autres sujets qui sont très intéressants et qui là sont le quotidien. D'une part, la partie conformité, effectivement. Alors, ça fait quelques années, c'est un peu moins vendeur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va pas faire un fixe sur NIS 2, par exemple. Mais c'est vraiment le sujet en continu. Puis je crois qu'il y a aussi un autre sujet qui fait pas mal parler dans les couloirs du FIC, c'est finalement le côté, tout simplement, l'état de la menace. On parle beaucoup des Jeux Olympiques depuis quelques années qui vont nous mettre sur le devant de la scène. Bon, bah, je crois que ça y est, là, on y est, c'est le moment et on en parle.
En plus, avec une belle conjonction par rapport à ce qui se passe avec les Russes, évidemment.
Exactement, c'est un surplus. Alors après, est-ce qu'il y a un lien ou pas? Est-ce que finalement, quand on cherche la corrélation entre deux événements, on les trouve forcément? Il faut rentrer dans l'analyse un peu plus fine. Mais voilà, aujourd'hui, on a globalement ce constat-là. La menace est de plus en plus présente, géo ou pas, c'est clair. La conformité, de plus en plus. Et finalement, entre le marteau et l'enclume, on a notre petit soldat RSSI qui essaye de lutter et de protéger son organisation contre ces deux types de menaces, finalement. Certains ont aussi peur du régulateur que du hacker russe à capuche. Donc, en fonction des organisations, il faut savoir où est-ce qu'on veut regarder.
Alors, sauf que avec le hacker russe, tu peux discuter, alors que le régulateur, c'est beaucoup plus difficile.
J'aime bien cette vision-là. Je reconnais ton côté. Voilà, l'avantage du régulateur, c'est qu'il explique ce qu'il veut faire et pourquoi il le fait. Et finalement, la conformité alors c'est peut-être une vision très personnelle, mais a toujours un bon fond. Et quand on cherche à comprendre NIS 2, Dora, finalement, ça permet aussi de comprendre le sens de la règle et du coup de faciliter avec les régulateurs. Donc, alors finalement, oui, on peut discuter avec le hacker, mais il a des idées plus fermées, je crois.
Ok. Tu seras là en 2025?
Bien sûr, c'est essentiel pour nous éditeurs Tonacy d'être sur le FIC et sur ce genre d'événement. Alors oui, on cherche à promouvoir nos solutions, hein, forcément. Mais aujourd'hui, quand notre promesse c'est d'accompagner et de rendre serein les équipes cyber face à ces constats qu'on vient d'évoquer, bah il faut les comprendre, il faut les écouter pour savoir de quoi ils ont besoin pour les accompagner. Donc carrément à l'année prochaine.
C'est ce que je te souhaite. Merci. À l'année prochaine, Baptiste.
Merci.
Maxime Descombes, L'Occitane.
Donc Maxime, le FIC 2024, donc nouvelle édition, placée sous le signe de l'IA. À ton avis, l'IA dans la cybersécurité, un effet de mode ou quelque chose qui va marquer la cybersécurité sur le long terme?
Ah bah écoute, pour moi, il y a les deux, bien entendu. Il y a un effet de mode, tout le monde se le fait, mais très clairement, pour moi, il y a une vraie plus-value derrière. Dans mes équipes, on est en train d'étudier un certain nombre de choses au niveau des use cases qui pourraient nous aider à trier, à aller plus vite, à accélérer sur pas mal de choses, pour gagner un peu de temps. Les menaces, je pense, vont être de plus en plus sophistiquées, ça va aller de plus en plus vite. Bah, nous aussi, on doit s'adapter, quoi. Et on va utiliser ça.
Très bien. Et alors justement, par rapport aux menaces, est-ce que t'as vu des changements assez fondamentaux par rapport aux années passées, donc post-Covid, aujourd'hui en 2024? Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, beaucoup d'attaques en France, mais pas que, puisqu'à Luxembourg, il y a aussi eu récemment quelques interventions malicieuses. Est-ce que toi, dans ton domaine, t'as remarqué des grands changements ou peut-être des attaquants un petit peu plus durs, un petit peu plus décidés dans leurs actions?
Alors moi, dans mon domaine, tout ce que j'ai remarqué sur les 9 premiers mois de d'entreprise, parce que je viens de rejoindre ma boîte, on a eu un pic à Noël. Bon, est-ce lié à des facteurs géopolitiques ou autres? J'en sais rien. Pour l'instant, je dirais pas que ça soit pire que d'habitude. Il y a la fluctuation habituelle, on va dire. Des fois, il y en a plus, des fois, il y en a moins. Donc, pour le moment, ça va. Ça se gère.
D'accord, ok. Donc, so far, so good, comme on dit.
Exactement.
Et alors, justement, qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2024? Comment tu vas orienter ta stratégie de cybersécurité?
Alors, faut voir dans quel domaine je travaille. Moi, je travaille dans le retail, un peu d'industrie, un peu de e-commerce. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de challenges. On va toujours continuer à travailler autour de nos sites web. continuer à les protéger, mais de manière, on va faire un peu de bug bounty, hein. C'est peut-être, ça date d'il y a quelques années, mais pour nous, c'est une nouveauté. La partie industrielle reste un gros challenge, quoi qu'on dise, c'est des choses sur lesquelles il faut vraiment travailler et on va se lancer là-dedans très sérieusement. Et pour le retail, c'est toujours aussi un gros challenge. Les boutiques, c'est un peu figé, ça a du mal à évoluer, donc sécuriser des points de vente, voilà, on a des choses à faire aussi. Donc, y a beaucoup de choses à faire, on avance. Avec les moyens qu'on a, parce qu'on n'a pas des moyens limités, mais on a quand même les moyens de bosser.
Oh, comme tout le monde, tu sais.
Ouais.
En tout cas, c'est ce qu'on te souhaite pour cette année 2024. Je te remercie, Maxime.
Eh ben, merci.
Marc-Antoine Ledieu, avocat au barreau de Paris.
Marc-Antoine Ledieu, donc l'avocat le plus cyber du FIC, certainement, sans aucun doute. Bonjour Marc-Antoine.
Bonjour Nicolas.
FIC 2024. Alors, on va pas forcément parler d'IA, même si c'est le thème du FIC, mais un autre sujet hyper important qui préoccupe beaucoup de gens, Nice 2 et Dora. On est quasiment à mi-parcours pour l'un et un peu plus pour l'autre. De ton point de vue, ça bouge, des nouvelles, des choses importantes à savoir?
Alors, on va le faire dans l'ordre. On va faire Dora, parce que c'est, même si le texte est très compliqué, ma grand-mère est très au courant, hein. De ce qui se passe pour Dora. Dora, c'est quand même un texte qui est assez abouti. Le public visé, il est quand même très déterminé. Bon, on a le problème des prestataires derrière, ça, je t'en toucherai un mot. Dora, ça avance, de ce que je vois, hein, moi, dans du business, ça avance difficilement. Les très gros opérateurs, eux, se sont emparés du sujet. Oui, les grosses banques, les grosses assurances. Les gros courtiers, pas encore. Ils vont peut-être comprendre que ça va leur tomber dessus aussi, mais on sait jamais. Mais là, ça avance. On a à côté de ça la production législative de l'UE, t'as les RTS, les ITS, alors là qui sont très problématiques, hein, ceux qui sont sortis au mois de janvier dernier, janvier 2024. Hein. Franchement, c'est une littérature, c'est infernal. Et ça pose un vrai problème parce que c'est encore lié, c'est encore à compléter, et voilà, ça rajoute une couche sur une couche sur une couche, ça devient difficile. On attend les RTS et ITS du mois de juillet, notamment sur les prestataires critiques de l'UE. Pardon du peu, hein, c'est quand même le gros du dispositif. Ce sont ces prestataires qui, s'ils tombent ou s'ils arrêtent de fonctionner pour des problèmes de panne, ben, ça veut dire qu'il y a un effet systémique direct. Et là, il semble qu'il y ait des problèmes d'identification de ces prestataires-là par l'UE. Bon, déjà, c'est pas gagné. Et après, je dirais comme toujours, c'est les prestataires. Et ce que je vois passer dans l'écosystème, c'est qu'aujourd'hui, les gros opérateurs qui ont compris comment marche Dora, vise en priorité une conformité sur les fonctions critiques sont importantes, et à ce moment-là ils se retournent vers leurs prestataires, et visiblement les prestataires ont un peu à la comprendre ce qui se passe. Donc, pour le faire en synthèse et un peu en caricature, les très gros ont lu, ont compris, sont en ordre de bataille. Personne ne sera conforme, hein, le 17 janvier 2025. C'est un vœu pieux. Mais c'est toujours pareil. Si on donne pas une date butoir, il se passe rien. Donc on donne une date butoir. Les autorités de contrôle ne seront pas capables de faire des contrôles. On le sait, mais ce qu'ils veulent, c'est que tout le monde s'y mette. Donc, on va, sans l'écrire, on va tolérer un peu. Et ça va coincer au niveau des prestataires critiques d'un côté. Parce qu'eux, ils prennent une réglementation en direct par Bruxelles. Donc ils sont un peu dehors. Enfin, on voit bien ce qu'on va leur demander. La redondance, toujours pareil, hein, du transfert au repos, des données, enfin la sécurité, je dirais classique, quoi. Et donc les prestataires, là, ça va faire bizarre. Donc ça, c'est le côté Dora. Mais ça avance. Côté Nice 2, on se retrouve avec le problème d'une directive, c'est-à-dire les transpositions nationales. Voilà. Alors bon, pour la France, l'ANSSI ne l'avoue pas, mais ils ont clairement une préoccupation première. Cet été, c'est les JO. On voit que le contexte géopolitique est quand même très problématique avec la Russie. On sait que ça va cyberattaquer. Voilà. Donc, je sais bien que les gens qui s'occupent de la transpo sont pas ceux qui font la réponse à incident, hein. Je pense que tout le monde le sait. Mais on voit bien quand même, ils ont un focus là sur les JO. Et puis, ça va redémarrer, entre guillemets, probablement en septembre. Les projets de loi sont déjà écrits, sont en cours d'arbitrage dans les ministères. Le projet de décret des règles de sécurité est sorti. Alors, je ne l'ai pas, hein, parce que, mais je l'ai pas lu non plus, mais enfin, c'est pas mal, hein, ça commence à, voilà, on voit bien les entités essentielles, les entités importantes, et pareil, discours de l'ANSSI, eux, en fait, ils ont deux problèmes maintenant. C'est d'abord, de faire comprendre à l'écosystème qu'il faut, alors on dit pas s'auto-dénoncer, on dit pas s'auto-désigner, on dit s'enregistrer sur le portail web qui est en version bêta. Hein. Donc, nous sommes à 6 mois de l'entrée en vigueur de Nice 2. Et puis à un moment, alors mes contacts de l'ANSI me le disent pas vraiment, mais à un moment, ils vont être obligés quand même de désigner d'office des petites entreprises qui seraient sous les radars pour des raisons de calcul que machin, mais qui sont objectivement critiques ou essentielles, hein, je veux dire, c'est les mêmes mots. Et là, visiblement, l'ANSI rechigne un peu. Déjà, ils n'arrivent pas à cartographier l'écosystème. Ils ont un peu de mal à se structurer parce que c'est une révolution pour eux. Hein. On passe de 600 cibles à, je sais pas, 10 000, 30 000. Bon, on voit bien, ça fait au moins fois 10, quoi. Donc, c'est difficile, ça coince un peu. Et puis après, le dernier problème, c'est moi, je suis maison mère en France et j'ai des établissements industriels en Espagne, en Italie, en Allemagne. Qui va prendre le lead? Est-ce que je dois être conforme avec le BSI allemand, le machin? Et aujourd'hui, c'est le basique. Les questions que se posent les professionnels qui sont impactés par Nice 2, c'est ça. Et on continue d'en être là quand même. Donc, on a beau, nous, les conseils pousser un peu en disant « Basculez déjà sur le ISO 27001, commencez à vous préparer. » Enfin, vous n'avez pas besoin d'attendre le texte de l'ANSI pour Nice 2 pour comprendre qu'il faut faire de l'ISO. Enfin, je veux dire, bâtissez de l'ISO, puis après, on vous fera vos grilles de correction, enfin, vos mappings. ISO, ça s'est écrit dans DORA 1 et ISO, ça s'est écrit dans Nice 2. Je veux dire, ça, ce sera pas un problème. Mais commencez à faire. Et là, ça commence à... C'est-à-dire que l'objectif, hein, ça a été annoncé par l'ANSI, c'est OK, ça rentre en vigueur, le dispositif législatif va être écrit, d'accord, là, ça, on va l'avoir, hein, ça n'a pas de problème. Allez, vous avez un an pour cartographier, puis ensuite vous avez un an pour déployer les mesures concrètes qui vont vous permettre de sécuriser tout ce que vous avez identifié dans votre carto. Donc on sait, et puis c'est le discours officiel du directeur général de l'ANSI, c'est un projet à 3-5 ans. Et maintenant, ça a fonctionné un peu comme ça pour le RGPD. Le but, c'est pas de sanctionner tout de suite. Le but, c'est que tout le monde s'y mette. Et puis ceux qui auront vraiment rien fait, là, dans 2-3 ans, celui qui va se faire prendre, il servira d'exemple. Hein, c'est l'exécution publique devant en place publique. Et une fois qu'on a décapité, cartelé, bouillanté, coupé ce qui dépassait, là, on fout la trouille à ceux qui ont rien fait. Donc, c'est clair, les autorités de contrôle vont pas arriver avec le couteau entre les dents ou dans les mains.
Un peu à l'instar de ce qui s'est passé par RGPD.
Voilà, c'est ça. Ou de facto, à un moment, il faut laisser le temps de prendre conscience du besoin. Parce qu'en fait, le niveau de sécurité général est franchement extrêmement bas. Vraiment, vraiment très très bas.
Très bien, Marc-Antoine. Et alors, comme je le disais un petit peu en introduction, le FIC cette année est sur l'axe de l'IA. Hein. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Et effectivement, c'est un vrai sujet de société. Hier, Thierry Breton, le commissaire européen, a annoncé tout un ensemble de lois qui vont sortir, etc. Sacré challenge pour vous, les avocats, dans le futur, je suppose.
En fait, pas tant que ça, parce que c'est la première fois, à ma connaissance, hein, je lis des textes européens depuis quelques années maintenant, c'est la première fois qu'on a une réglementation qui, au départ, est une réglementation éthique. Le cœur de ce règlement IA qui est en train d'être finalisé, là, puisque le premier draft technique est adopté, maintenant faut le traduire dans les 17 langues de l'UE, c'est pour être sûr, traduction, ça harmonise, en bref. Donc là, on est vraiment où? C'est quoi le fond de ce truc? Pardon, de ce règlement sur l'intelligence artificielle? C'est de dire que on est devant une révolution technique incontestable. C'est vrai, là, on va faire un bon technologique et remarquable. J'ai commencé à avoir des applications de ce truc, c'est étonnant. Vraiment, c'est vraiment étonnant. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que si on fait comme les Chinois, qu'on fait du flicage massif de population en temps réel, avec de la détection, de l'analyse, du croisement comportemental du machin, on se dirige vers un Big Brother puissance 10 000, hein, et on a un vrai problème, nous, nos sociétés démocratiques. Donc le cœur de ce dispositif sur l'IA, je sais bien que ça n'a pas l'air d'intéresser tout le monde, mais c'est ça. C'est que dans une série de secteurs très délimités, on va dire, là, l'IA, c'est interdit. Point. C'est pas négociable, c'est interdit parce que danger pour la démocratie, pour le truc de machin. Donc ça, c'est la première catégorie. Ensuite, il y a des IA qui vont être utilisés, c'est toujours des cas d'usage, qui vont être utilisés sur des cas d'usage à haut risque. On voit bien que, des mécanismes de sécurité industrielle qui dépendent d'une IA, la vanne d'un barrage qui s'ouvre parce que l'IA a disjoncté ou s'est fait bricoler, il y a 50 000 morts dans une vallée, enfin voilà. Donc, il y a les IA interdites, grosses sanctions, machin, super. Les IA à haut risque, il y a les IA à risque, il y a les IA à petit risque, il y a les IA à pas de risque, voilà. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que moi, je me suis intéressé au premier projet qui est 2021 quand même, on est en 2024. Et en 2021, le problème de l'IA générative ne s'était pas posé. On n'en parlait même pas. Et en 2023, a explosé, dans tous les sens du terme, le problème de l'IA générative. Et aujourd'hui, les gens ne parlent plus que de ça. Or, le fond de cette réglementation IA, c'est vraiment, voilà, je te catégorise, t'es là. Est-ce que c'est traçable? Est-ce que c'est transparent? Est-ce que c'est auditable? Est-ce que je peux analyser tes jeux de données? Est-ce que t'as des biais? Bon, on a compris comment ça tournait. Et de là-dessus, dans ce texte, il y a des dispositions spéciales sur l'IA en matière de cybersécurité. Et je n'en dirai pas un mot parce que j'ai pas fini de le lire. Et quand j'ai pas fini de lire un truc, je m'exprime pas. Mais je pense que ma grand-mère aura peut-être la primeur bientôt de quelques explications sur l'IA, son encadrement dans la cyber, parce que les cas d'usage, on voit bien. Je m'exprimerai si ma grand-mère m'invite volontiers, mais quand je serai au point.
Elle est très impatiente de t'entendre.
Grand-mère, je lis beaucoup en ce moment. J'arrive.
Je te remercie, Marc-Antoine.
Avec grand plaisir.
Raphaël Elouz, Hermès. Raphaël, bonjour.
Bonjour.
Alors, Raphaël, tu es le responsable et même le fondateur du CERT d'Hermès.
C'est ça.
Et alors, juste en quelques mots, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un CERT pour les auditeurs qui ne sauraient pas exactement ce que c'est qu'un CERT?
Alors, un CERT, ça veut dire Computer Emergency Response Team, et donc c'est une équipe de réponse aux incidents de cybersécurité. Et en fait, pour être complet, en fait, dans mon équipe, j'ai pas que le rôle de CERT qui arrive quand on a un incident avéré et critique en général, mais on a aussi le rôle de SOC. Et le rôle de SOC, ça va être le rôle de mettre en place les capacités de détection et analyser l'ensemble de nos alertes qui sont des vrais positifs ou des faux positifs pour réagir en tant que CERT quand le cas échéant, quand on a une attaque réelle.
Ok, vaste sujet. Hein. D'ailleurs, je pense qu'il faudra qu'on fasse un numéro dédié à ça, tellement le sujet est intéressant et ô combien important en cybersécurité. Alors aujourd'hui, au FIC, donc FIC 2024, il y a un peu un filigrane, donc un fil conducteur dans cette édition du FIC, qui est l'intelligence artificielle. Alors, j'ai un peu fait le tour du salon, j'ai discuté avec pas mal de personnes. Certaines personnes pensent que c'est un petit peu un effet de mode, d'autres y croient beaucoup plus. Et justement, selon toi, pour les SOC et le CERT, etc., plus-value, simple effet de mode, quel est ton avis sur la question?
Alors, c'est vraiment une vaste question. Historiquement, il y a encore pas longtemps, j'étais extrêmement
sceptique
par rapport à la cybersécurité, parce que aujourd'hui, dans le monde de la détection, du CERT, du SOC, elle a pas encore vraiment trouvé sa valeur. Le seul sujet qui a vraiment prouvé son efficacité historiquement, ça va être en fait ce qu'on appelle simplement le baselining, l'apprentissage automatique, mais de là à appeler ça de l'intelligence artificielle, c'est vraiment en fait des concepts qui peuvent être juste algorithmiques où on va remplir une base de données très simple. Ça, c'est la réalité des choses et c'est la réalité de ce qu'on voit derrière les buzzwords intelligence artificielle dans énormément de solutions de sécurité où en fait, quand tu creuses un peu, bah oui, ils ont un concept d'attaque, par exemple, et en fait, ils vont juste apprendre en disant bah cette IP, ce user, ce service, cette application, on la voit souvent dans cette attaque et donc on va la prendre comme étant normale et ils vont pas la remonter quand ils vont la revoir. Et en fait, c'est des choses très simples comme ça. Donc, historiquement, moi, j'étais très sceptique par rapport au concept de machine d'intelligence artificielle ou machine learning magique où on te dit bah t'inquiète, donne-moi tout.
Elle compte l'avant, exactement.
Des choses magiques, réfléchis pas. Et en fait, j'ai quand même un peu évolué dans cette approche, notamment alors le générative AI, tout ce qui est intelligence artificielle de génération, c'est extrêmement efficace. Ça a ses limites. Il faut faire très attention parce que ça peut nous donner des informations avec les hallucinations qui sont fausses. Mais ça peut nous donner, ça peut nous faire gagner beaucoup de temps, en fait. Et je pense que notamment en termes de développement, aide au développement de règles, aide à la simplification, à la compréhension, même d'un malware. Quand on a un malware, pour même le désoffusquer, pour comprendre son fonctionnement, etc., ça peut être très utile. Mais il faut l'utiliser comme un assistant en maîtrisant le sujet vraiment de A à Z. Donc c'est ça, ça c'est un bénéfice aujourd'hui qu'on a. Les solutions de cyber, je pense qu'il faut vraiment savoir ce qu'on fait. Et en fait, il y a une fausse croyance, je pense, en machine learning. Je suis vraiment pas un expert, hein, mais il y a une fausse croyance qui dit que tu donnes la data bêtement, tu mets tes algorithmes et t'en ressort de la magie. Là d'ailleurs, je travaille sur un groupe de travail au campus cyber avec une boîte qui s'appelle Aleia. Et on travaille sur ma data pour essayer d'identifier et de mettre en place un algorithme, un modèle de détection. Et en fait, ça, c'est des modèles assez simples. C'est des modèles en fait de baselining un peu automatique mais intelligent, où je lui dis, je prends un concept, une règle de détection qui est extrêmement verbeuse, ça veut dire qu'il génère des milliers, des millions de lignes de d'événements en fait par jour. Ça peut être par exemple, je sais pas, toutes les injections entre deux process, tous les name pipes dans mon environnement, ou prendre des règles. Tu sais, les solutions de sécurité ont souvent, que ça soit les IPS, les EDR, ils ont souvent au fond des règles de détection qui font beaucoup de faux positifs, qui te donnent comme informationnel. Et en fait, c'est vachement intéressant d'essayer d'aller prendre toute cette data et d'en apprendre automatiquement pour identifier ce qui est anormal. Et donc se concentrer dessus. Excuse-moi.
Alors, juste pour ma grand-mère, parce que ma grand-mère connaît pas forcément tous les éléments que tu viens de citer. Alors, juste sur la partie baselining, c'est essayer de définir ce qui est normal, finalement, donc le comportement normal d'un système, et ce qui est très utile, hein, puisque avant toute chose, on veut vérifier ce qui n'est pas normal. Donc, par extension, définir ce qui est normal, ça peut être une bonne chose. Tu as défini les règles aussi. À un moment donné, tu as dit que l'IA pouvait aider à définir des règles. Alors ça, je fais référence à deux épisodes de ce podcast qui étaient pour une poignée de dollars et pour une poignée de dollars de plus, hein, dans lequel on expliquait que le CIEM fonctionnait avec des règles. Et tu as cité aussi un élément très important qui était que parfois les systèmes faisaient beaucoup de faux positifs. Et je crois que dans les SOC, il faut vraiment faire la chasse aux faux positifs, parce qu'on doit pouvoir extraire uniquement l'information là, donc, qui est la plus pertinente, la plus importante pour l'analyste, et éviter d'avoir un sapin de Noël affiché à l'écran, parce que là, ça rendrait le système totalement inutilisable. Donc pour toi, si je résume un petit peu ce que tu viens de dire, et tu corriges-moi si je me trompe, mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet justement d'optimiser ce genre de choses et d'être un petit peu plus pointu, mais ne remplace pas finalement l'action humaine. C'est juste un outil qui te permet donc d'optimiser tout ça et de rendre plus efficace ton système de détection.
C'est vraiment ça. Je pense qu'on peut l'utiliser comme des briques de simplification de notre travail, qui peut des fois être très time-consuming, très...
consommateur de temps.
Consommateur de temps, ouais. Et donc certaines tâches, typiquement le baselining, quand on a une règle qui fait beaucoup de faux positifs, d'aller analyser manuellement tous les comportements normaux et les rentrer dans des whitelists, donc des règles d'exception, ça peut prendre énormément de temps. Et donc là, c'est là où un algorithme de machine learning peut nous aider à faire cette même action beaucoup plus efficacement et en beaucoup moins de temps.
Alors tu veux dire que quelque part, les sales qui disent « vous avez juste à le brancher et tout va aller tout seul » nous mentent un petit peu, c'est ça? Il n'y a pas de déjeuner gratuit finalement?
Alors, ça dépend de la solution. En tout cas, la réalité, c'est que l'idée initiale d'il y a quelques années qui était « tu donnes tous tes logs et on trouve ce qui est anormal et on t'en génère des alertes », ça ne marche pas. Donc en fait, il faut rajouter une première couche d'intelligence où tu sais que tu te bases sur un concept qui est quelque chose de risqué ou utilisé par les attaquants, mais qui fait trop de bruit. Et c'est là où tu vas demander au machine learning de dire « fais-moi le tri parmi tout ça ».
D'accord. C'est un petit peu l'outil qui te permet de trouver
l'aiguille dans la meule de foin.
C'est ça. C'est ça. Okay. Mais alors, pour être honnête, nous, moi, je pense que de mon expérience, c'est encore trop verbeux. Parce que lui, il n'arrive pas à faire la différence, justement, entre un événement qui est anormal et qui est malveillant, ou un événement anormal et non malveillant. Et donc, moi, dans mon environnement, on l'associe avec quelque chose qu'on appelle le weak signal, les signaux faibles. Et en fait, on va créer, sur toutes les alertes qui sont trop verbeuses, qui génèrent trop de faux positifs, on va créer des signaux faibles qu'on va corréler entre eux pour en fait identifier une machine, par exemple, qui fait plein de petits événements suspects à côté et non pas un événement suspect. Et c'est comme ça, en fait, qu'on répond aussi au problème des faux positifs. Et d'ailleurs, je viens d'enregistrer un épisode avec No Limit Sécu sur ce sujet.
Si No Limit Sécu, qu'on salue au passage. Écoute, je te remercie. Alors, juste encore une dernière question, tant que j'étais sous la main. FIC 2024, par rapport à 2023, est-ce que tu as vu une évolution des attaques? Est-ce que les choses, pour toi, n'ont pas vraiment changé? Ou alors, au contraire, est-ce qu'elles ont évolué, eu égard au contexte géopolitique, les guerres en Ukraine, la suite du Covid? Est-ce que les choses sont restées comme avant, ou est-ce qu'elles évoluent dans le bon ou dans le mauvais sens, d'ailleurs?
Une question très compliquée. Ça évolue dans... En fait, côté détection, côté prévention, on a de nouveaux outils de plus en plus puissants. On a eu tout ce qui était EDR, maintenant XDR, qui nous donne des visibilités extrêmement, extrêmement détaillées. On a le cloud, qui nous donne aussi beaucoup de visibilité, parce que le cloud s'est construit, alors je dis pas que c'est magique, mais il s'est construit en mode secure by design. Après, il faut respecter et le faire intelligemment.
Respecter le principe, oui. C'est souvent la difficulté.
Mais on a l'avantage, par exemple, d'avoir des logs, des événements qui sont extrêmement détaillés et où on a beaucoup de contexte dedans. Donc ça peut être vachement intéressant. À côté de ça, c'est des nouveaux environnements. Et pour nous, par exemple, on doit s'adapter. Et donc, c'est des environnements et des capacités d'attaque et de détection, etc., qui sont complètement nouvelles. Donc en fait, on a un monde en constante évolution. Les systèmes d'information sont de plus en plus complexes. Donc ça crée de plus en plus de surfaces d'attaque pour nos attaquants. Et nous, on a quand même de plus en plus d'outils qui nous permettent de faire les choses bien et efficacement. Mais tout ça, c'est quand même très complexe. Et je pense pas qu'on est sorti de l'auberge et que demain on aura une intelligence artificielle qui nous remplacera et qui fera la sécurité toute seule, malheureusement. Enfin, malheureusement ou heureusement, je sais pas.
Je crois que c'est une très bonne conclusion pour cette interview. Raphaël, encore un grand merci d'avoir participé à cette interview pour le FIC. Ma grand-mère te fait un gros bisou et j'espère te revoir très prochainement.
Merci beaucoup.
Encore merci d'avoir écouté La cybersécurité expliquée à ma grand-mère, le podcast pour expliquer la cybersécurité à ceux qui n'y comprennent rien. N'hésitez pas à liker cet épisode et le partager avec 2-3 personnes. Si vous êtes sur Spotify, n'hésitez pas à laisser des sujets qui pourraient vous intéresser. Et surtout, n'oubliez pas, pour certains, la cybersécurité est un enjeu de vie ou de mort, c'est bien plus sérieux que ça.